Nicolas Nova.
Bonjour French Web.
Vous êtes enseignant à la Haute École d'Art et de Design de Genève en Suisse. Vous conseillez également des entreprises comme Nokia Design, Swisscom ou Orange sur différents points. Et vous êtes notamment l'auteur d'un livre qui s'intitule « Les flops technologiques, comprendre les échecs pour innover » où vous décryptez les exemples de flops que vous listez et les bonnes leçons à tirer de ces échecs.
Absolument. C'est un peu l'objet du livre, une espèce d'interrogation moi, qui m'a toujours fasciné, c'est d'aller regarder tout ce qui marche pas. Il y a certaines personnes qui s'intéressent à aller voir les succès. Moi, j'aime bien aller gratter les échecs et surtout ceux qui sont décrits dans le livre, les échecs qui perdurent, des tentatives qui n'ont pas été juste des one shot, mais des essais récurrents comme le frigo intelligent, la visiophonie, la robotique humanoïde, etc.
Vous dites dans le livre, justement, vous dites qu'il y a trois types d'échecs qui sont liés à l'innovation. Selon vous, il y a les échecs qui durent, des objets qui sortent, par exemple, difficilement de la phase R&D, qui ne parviennent pas à entrer sur le marché. Il y a également des échecs récurrents en cours de conversion vers une forme de réussite, c'est ce que vous expliquez. Et vous dites enfin qu'il y a des échecs qui ont des succès, mais qui sont en devenir. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples sur ces trois échecs, ces trois types d'échecs ?
Le premier, celui qui est les échecs en fait, qui ne sortent pas en fait des laboratoires de recherche. Alors, il y en a beaucoup. On n'en entend pas toujours parler malheureusement, mais on pourrait parler du frigo intelligent qui, à chaque fois qu'il y a eu des tentatives de mise sur le marché, il a quand même pas très bien, il s'est pas très bien vendu. C'est l'idée d'avoir ce frigo qui peut faire vos courses à votre place.
C'est ça qui est connecté à Internet, par exemple.
Connecté à Internet, voilà. Ensuite, dans les échecs qui se répètent, on a des choses qui sont, par exemple, sur la visiophonie. La visiophonie, le fait d'utiliser la vidéo avec le téléphone, c'est quelque chose qui existe depuis, en gros, la fin des années 1930 dans les laboratoires de recherche et sous la forme de produits depuis les années 60, notamment aux États-Unis, dans le laboratoire d'AT&T. Et donc, là aussi, 40 ans d'échecs. Et ce qui est curieux, c'est que c'est pas nécessairement un succès en devenir, mais c'est qu'il y a des usages proches de la vidéoconférence. J'ai mentionné le mot vidéoconférence. Il y a des usages proches de la visiophonie qui sont la vidéoconférence, et notamment par Skype avec la vidéo qui fonctionne, mais dans une version totalement différente de ce qui avait été pensé dans ces laboratoires. Et puis enfin, ceux qui sont en devenir, c'est des échecs technologiques qui ont perduré pendant un certain temps et qui aujourd'hui mènent à des produits plus ou moins réussis et qui touchent leur marché. Par exemple, le livre électronique qui a eu ses prémices dans les années 70. Il y a eu une grosse vague à la fin des années 90. Et puis, depuis quelques années, il y a une nouvelle vague qui est venue surtout tirée par Amazon avec le Kindle et qui arrive enfin à pénétrer le marché.
Vous expliquez finalement, c'est ce qu'il faut retenir dans le livre, que la bonne recette réside dans l'usage, dans le bénéfice utilisateur, dans l'expérience de l'usager.
Absolument. Alors, une espèce de message en fait du livre, c'est de rappeler que le problème lié à ces échecs, il n'est pas nécessairement dans la technologie. Les technologies sont plus ou moins matures, mais c'est plutôt dans la manière dont les concepteurs, qu'ils soient ingénieurs, designers, marketing ou le management, se représentent l'expérience utilisateur ou les usages que leurs produits pourraient apporter. Et là, bien souvent, c'est souvent problématique. Et il y a peut-être une leçon aussi à tirer, c'est que c'est pas nécessairement... il faut avoir une posture d'humilité et de se dire qu'on peut pas nécessairement toujours imposer un usage, mais que dans la proposition avec un produit ou un service technologique, on peut apprendre des usages, des détournements d'une première, on va dire une première élite qui commence à utiliser ces dispositifs pour ensuite en tirer des applications pertinentes. On l'a vu, par exemple, Skype est très bon pour faire ce genre de choses, à faire des petites tentatives comme ça, rajouter certaines fonctionnalités, apprendre des usages de la manière dont les utilisateurs vont se les approprier et ensuite proposer des produits. Typiquement, c'est comme ça que Skype se retrouve aujourd'hui à faire des applications sur télévision qui permettent de faire de la vidéoconférence, alors qu'à la base, c'était pas du tout dans leurs idées. C'est un constat qu'ils ont effectué à partir des usages des utilisateurs de Skype qui commençaient à utiliser l'écran de leur ordinateur avec Skype comme le poser dans la cuisine, le poser dans le salon et d'avoir quelqu'un à distance qui pouvait être présent, qui pouvait participer à un dîner, qui pouvait participer même à des jeux de société, hein, un après-midi, un dimanche, et ils se sont dit, mais ça pourrait donner lieu à des applications intéressantes, et ils ont fait des applications web sur la télévision qui permettent la visioconférence.
Oui, parce que finalement, on revient à un fondamental, hein, c'est savoir à quoi ça sert finalement tel ou tel
Exactement.
produit.
Exactement. À quoi ça sert? Quelles sont les motivations des utilisateurs? Dans quel contexte? Et à partir de là, c'est difficile de préjuger de ces manières de faire. Et c'est pour ça que ce que j'essaie de décrire en fait à travers l'explication des flops dans le livre, c'est que bien souvent, la technologie est prise juste comme un moyen qui peut permettre de faire des choses qui sont pas nécessairement ce que les utilisateurs voudraient, mais plutôt ce que les concepteurs trouvent de fantastique. Donc le frigo intelligent. C'est génial, on peut automatiser les courses en connectant le frigo à Internet. C'est parti, allons-y gaiement. Mais quand les utilisateurs voient et commencent à vivre avec ce genre de machine, ils se rendent compte que il y a une espèce d'ambivalence entre d'un côté donner le contrôle à la machine qui va automatiser ce qui va arriver dans leur assiette et les laisser en contrôle. Et là, les utilisateurs préfèrent quand même garder le contrôle, même si c'est pénible de faire des courses.
Vous expliquez enfin dans le livre que finalement l'échec c'est aussi une question de culture. Aujourd'hui, la course à l'innovation ne laisse pas beaucoup de place à l'échec et la bataille est souvent très très rude. Elle est synonyme de perte, de banqueroute. On le voit sur certaines innovations qui ne marchent pas. Et votre livre décomplexe finalement l'échec dans une culture qui n'est pas tournée forcément vers cela. Est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui de décomplexer l'échec, de finalement se nourrir de l'échec et d'avancer?
C'est en tout cas ce que j'essaye de proposer dans le livre. Et moi, ce qui m'inquiète, notamment dans certaines sociétés technologiques qui ont une taille si importante qu'elles ont peur de prendre des risques, c'est justement la peur de l'échec. Alors que l'innovation découle d'un processus de prise de risque, on ne peut pas tout contrôler et il faut avoir à la fois l'humilité ou en tout cas la compréhension du fait que si on n'essaye pas de faire certaines tentatives, de confronter des propositions technologiques à des utilisateurs, d'apprendre de ces ratages, de voir comment les utilisateurs pourraient se réapproprier ces technologies dans un usage qui est peut-être très différent de ce qui a été pensé au départ, ce sera difficile d'y arriver, ce sera difficile de conserver sa position et ce sera difficile d'avoir une situation de croissance. Donc c'est un peu dommage. Et là, la culture d'entreprise aurait, je pense, beaucoup besoin surtout dans les grosses organisations, d'essayer de reconsidérer cette dimension de l'échec et du ratage.
Merci beaucoup, Nicolas Nova.
Je vous en prie, merci.
À bientôt, merci.
Au revoir.